Família. Rádio Alfa.
Il est midi, merci beaucoup d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. On fait tout de suite un point sur l'actualité avec Florian Laffont. Bonjour Florian.
Bonjour, pas de démission pour le Premier ministre espagnol. Pedro Sanchez décide finalement de rester à son poste après avoir évoqué un éventuel départ la semaine dernière, alors que sa femme est visée par une enquête préliminaire pour corruption et trafic d'influence. Fait inédit, le chef du gouvernement socialiste avait alors suspendu ses activités publiques. Des milliers de militants avaient manifesté ce week-end pour lui demander de ne pas quitter ses fonctions. Nouvel épisode dans l'affaire Depardieu. Selon plusieurs médias, l'acteur est actuellement entendu par la police judiciaire à Paris après des accusations d'agression sexuelle. Elles auraient été commises lors de deux tournages en 2014 et 2021. Deux femmes accusent Gérard Depardieu d'attouchement et de harcèlement sexuel. Lui conteste toujours les faits. De garde à vue toujours en cours à Châteauroux suite à l'agression mortelle d'un jeune de 15 ans. Il a été poignardé samedi en fin de journée lors d'une bagarre. L'auteur présumé des coups de couteau, un Afghan de 15 ans également, venait d'être placé sous contrôle judiciaire suite à des vols. Sa mère est également entendue, soupçonnée d'être impliquée dans ces violences. Et c'est dans ce contexte que démarrent les concertations sur la violence des jeunes. Le Premier ministre reçoit les représentants des partis politiques à Matignon. Les discussions qui démarrent avec la France Insoumise en fin d'après-midi vont durer deux mois. Il est plus spacieux et plus propre. La SNCF et Alstom présentent aujourd'hui la première rame du nouveau TGV. Le TGV M pour modulable, car une voiture pourra être ajoutée au train pour transporter une centaine de voyageurs supplémentaires. Son nez allongé lui permet d'optimiser sa consommation d'énergie. Alstom doit en livrer 115 exemplaires. Il devait initialement être prêt pour les JO, mais les premiers voyages sont maintenant prévus pour l'an prochain sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Et puis un casting 5 étoiles pour le jury du Festival de Cannes. On y retrouve Omar Sy et Eva Green, mais aussi le réalisateur japonais Kore-eda, Palme d'Or en 2018. Au total, 4 hommes et 4 femmes sous la houlette de la présidente américaine Greta Gerwig, à qui l'on doit le film Barbie. 22 films sont en compétition officielle pour cette 77e édition qui s'ouvrira le 14 mai. Et c'est la fin de ce flash. Bonne journée.
Une bonne journée et à tout à l'heure, Florian.
Information du tempo con VB Gaz.
Faites confiance à VB Gaz à Créteil pour l'installation d'une climatisation dernière génération. Prenez dès maintenant rendez-vous pour un devis gratuit sur vbgaz.fr.
En Ile-de-France, il fait frais aujourd'hui sous un ciel un peu nuageux. Cet après-midi, malgré le développement de gros cumulus, le temps restera sec jusqu'au soir. Dans le reste du pays, de belles éclaircies dans l'ouest et le nord, alors qu'un temps maussade persiste dans l'est. Des pluies parfois fortes se maintiennent dans le sud-est. Cet après-midi, de grosses averses se poursuivent sur le Languedoc-Roussillon jusqu'aux Pyrénées et au Jura, en prenant un caractère orageux. Côté température, Météo France nous indique qu'il fera 18 degrés cet après-midi à Paris, 18 à Lille, 20 à Strasbourg, 16 à Lyon et 24 à Nice. Et l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère nous indique qu'il fait actuellement 16 degrés à Viana, 16 degrés à Porto, 19 à Braga, 17 à Bragance, 19 à Castelo Branco, 18 à Leiria, 18 à Lisbonne et 23 dans le sud, à Faro. Merci beaucoup d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez plus précisément l'Alpha 10-13. Il est maintenant l'heure de commencer notre rubrique mensuelle de santé, la santé d'abord. Je suis aujourd'hui en compagnie, comme souvent, de Suzette Fernandez, mais aussi de Marc-Antoine Bendera et de Florence Kenoui-Poitrine. Bonjour.
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 Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Didier.
Bonjour. Je vous invite, l'un après l'autre, à vous présenter à nos auditeurs et auditrices.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis médecin de santé publique et professeur d'épidémiologie. Je travaille au CHU Henri Mondor, non loin d'ici. Et je dirige une équipe de recherche qui s'intéresse à l'épidémiologie du vieillissement. Et en particulier, on s'intéresse particulièrement à la question des cancers qui surviennent chez les patients âgés. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard.
Mmh. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Marc-Antoine Bendera, je suis oncologue, cancérologue à l'hôpital Tenon, à la PHP, dans le 20e à Paris.
Et Suzette?
Et voilà, donc Suzette Fernandez, représentante d'usagers à Mondor, et je suis là pour me faire un peu l'avocat du diable en essayant de poser quelques questions pour mieux informer les auditeurs.
Absolument, et nous allons donc, vous l'avez peut-être déjà compris, chers auditeurs et chères auditrices, parler aujourd'hui essentiellement du cancer de la prostate et du cancer du sein. Ma première question sera très vague, très large, disons. qu'est-ce que le cancer de la prostate ?
Alors, je vais peut-être prendre la parole. Donc, le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Il y a un peu moins de 60 000 cas par an en France. C'est un cancer qui est développé aux dépens de la prostate. Et c'est ce qu'on appelle un cancer hormonodépendant. Donc, il dépend des hormones sexuelles masculines, c'est la testostérone. Et c'est un cancer qu'on traite très bien. Un cancer, ce qu'on appelle de bon pronostic. Et c'est un peu le pendant du cancer du sein chez la femme, qui est aussi un cancer hormonodépendant et qui est le cancer le plus fréquent chez la femme.
Le cancer de la prostate se soigne-t-il ?
Alors oui, il se soigne plutôt bien. Comme tout cancer, il faut le diagnostiquer à un stade précoce pour pouvoir le guérir. Donc le stade précoce, c'est-à-dire que le cancer reste localisé à la prostate et qui ne donne pas ce qu'on appelle de métastase. Il ne part pas dans les os, par exemple, ou les ganglions. Et quand il est localisé à la prostate, on le guérit. Et donc avec des traitements qui sont soit de la chirurgie ou de la radiothérapie. Donc c'est un cancer qui se soigne bien actuellement. Oui.
Et existe-t-il une différence entre le diagnostic et le dépistage ? Diagnostiquer et dépister ?
Peut-être Florence.
Oui, absolument. Le dépistage, c'est quand on identifie une maladie à un stade le plus précoce possible et que la personne n'a pas de symptômes, la personne ne se plaint de rien. Mm-hmm. Donc, il existe en France ce qu'on appelle des programmes de dépistage organisés, qui sont organisés au sens organisé par la Sécurité sociale, l'assurance maladie. Et aujourd'hui, on a le dépistage organisé du cancer du sein. Donc, pour les femmes qui reçoivent une lettre de la Sécurité sociale pour aller faire une mammographie de dépistage à partir de 50 ans, il y a d'autres dépistages organisés. Ça n'existe pas pour le cancer de la prostate. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le dépistage, c'est qu'on va détecter par des examens, par exemple radiologiques ou biologiques, un cancer à un stade le plus précoce possible, alors que le patient n'a aucun symptôme. Et le diagnostic, c'est en général quand on a détecté un symptôme, la personne se plaint de symptômes, par exemple une femme a senti une boule dans son sein, et elle va consulter pour ces symptômes, et on va ensuite, le médecin va lui proposer de faire des examens pour identifier si oui ou non on identifie une tumeur.
Et donc comment diagnostique-t-on et dépiste-t-on le cancer de la prostate et le cancer du sein ?
Alors, le cancer de la prostate, il n'y a pas, comme disait Florence, de dépistage organisé, donc systématique, parce que ça, il n'y a pas d'étude qui a formellement démontré un bénéfice en termes de décès, donc ça ne réduit pas les décès. Si on décide de dépister quelqu'un, donc à l'échelle individuelle, donc un patient qui souhaite se faire dépister du cancer de la prostate, son médecin traitant peut le faire en lui prescrivant ce qu'on appelle le dosage du PSA, c'est une petite protéine qui est sécrétée dans le sang. C'est prostate spécifique antigène, c'est en anglais, et un toucher rectal. Donc le PSA, c'est donc ce qu'on dose dans le sang, s'il est élevé, c'est plutôt en faveur d'un cancer de prostate, mais pas que, parce que le PSA peut être élevé dans d'autres causes. Hein. Par exemple, quand on a une grosse prostate, l'hypertrophie bénigne de prostate, on a un PSA élevé. Quand le PSA est bas, c'est plutôt rassurant. Là, le cut-off, on dit qu'au-dessus de 4, il faut faire des examens. Mmh. Et le toucher rectal, le but, c'est de toucher la prostate. Donc, c'est un doigt qu'on met dans l'anus pour toucher la prostate et voir la taille de la prostate, sa consistance, si on sent un nodule. Et donc, c'est ces deux examens qu'on peut faire pour dépister le cancer de la prostate. Pour le cancer du sein, c'est un dépistage systématique qu'on propose à tout le monde et donc il faut le faire. C'est les patientes, donc les dames, pardon, parce que c'est des dames qui ne sont pas malades, donc qui ont entre 50 et 74 ans. Donc à partir de 50 ans, comme disait Florence, elles reçoivent une lettre de la Sécurité sociale pour faire le dépistage, donc une mammographie tous les deux ans. Et si cette mammographie est anormale, donc on trouve quelque chose, elle est envoyée à un gynécologue après avoir fait une biopsie de ce qu'on a trouvé. Et donc il y a des études qui, là on a fixé à 50 ans l'âge pour faire le dépistage des cancers du sein, mais il y a des études qui sont en cours pour diminuer un peu cet âge, parce qu'il y a peut-être des dames où ça serait bien de les dépister plus tôt. Donc on en parlera peut-être, je ne sais pas si Florence, tu veux...
Oui, non, ce qu'il faut dire, c'est que le dépistage organisé pour le cancer du sein, puisque ça n'existe que pour l'un des deux cancers dont on parle aujourd'hui, il est loin de toucher 100% des femmes qui sont éligibles, c'est-à-dire les femmes entre 50 et 74 ans aujourd'hui, même si ça bougera peut-être. Et donc, on a prouvé que ce dépistage, il était efficace, c'est-à-dire qu'il permettait, par des études, on a montré que le fait de repérer des cancers à des stades plus précoces permettait de les traiter à un stade plus précoce et donc de donner à des femmes, à ces femmes qu'on diagnostique quand il y a un cancer du sein, des traitements plus tôt et moins agressifs, puisque la tumeur a été moins développée et donc, in fine, à avoir un meilleur pronostic en termes de survie, mais aussi moins de conséquences des traitements, puisqu'on aura réduit les traitements, puisqu'on aura trouvé la tumeur plus tôt. Et malgré ça, on n'arrive pas du tout, on est très loin des 100% d'adhésion au dépistage par la mammographie pour ces femmes. Alors, il y a différentes raisons de non-acceptabilité de ce dépistage, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de travaux, de recherches et même d'interventions pour comprendre un petit peu pourquoi ces femmes qui sont dans la cible ne vont pas jusqu'à la mammographie quels sont les leviers, les différentes interventions qu'on pourrait mettre en place pour aller vers ces femmes et aller proposer dans les conditions qui seraient plus acceptables pour elles cette mammographie.
Quels sont les chiffres en France concernant ces deux cancers, celui de la prostate et celui du sein ?
Alors, comme a dit Marc-Antoine, on est en gros sur ces deux cancers à peu près dans les mêmes eaux, je dirais. On est à peu près autour de 60 000 nouveaux cas de cancer de prostate chez l'homme et 60 000 nouveaux cas chez la femme. À peu près 900 000 femmes qui vivent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la prévalence en épidémiologie. On a 900 000 femmes qui vivent aujourd'hui avec un cancer du sein en France, alors que ce soit un cancer détecté il y a peu ou depuis très longtemps. Et puis c'est autour de 600-700 000 pour le cancer de prostate. Donc vous voyez, c'est un grand nombre de personnes qui vivent aujourd'hui en France avec un de ces deux cancers. Le cancer du sein, il a beaucoup augmenté dans les années 90 du fait de la mise en place du dépistage. On en a repéré plus. Et puis là, il est plutôt stable ou avec un petit peu d'augmentation. En termes de cancer de prostate, c'est plutôt, on observe, bien qu'il y ait un vieillissement de la population et l'âge est un des principaux facteurs de risque de ces deux cancers, on a une baisse plutôt de l'incidence du cancer de prostate, pas énorme, mais une petite baisse. Et en termes de pronostic de survie, c'est, comme disait Marc-Antoine, des cancers de bon pronostic, puisque la survie à 5 ans, elle est au-delà de 80% et à 10 ans est à peu près dans ces eaux-là, plutôt 75%. Mais du fait que ça touche un très grand nombre de personnes, il y a quand même un nombre de décès par an en France de ces deux cancers qui est important. Et le cancer du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Et pour le cancer de la prostate, c'est le troisième derrière le cancer du poumon et colorectal.
Et nous allons pour le moment marquer une courte pause.
PCE, le seul concurrent du CACES reconnu par le ministère du Travail.
Transférable dans toutes les entreprises, en cas d'accident du travail, vous avez les mêmes garanties que CACES.
Nous intervenons sur vos chantiers ou dans vos entreprises, même pour un salarié. Nouveau, les tests sont traduits en portugais.
Formation sur engins de chantier, nacelles élévatrices, chariots industriels, grues auxiliaires de chargement, grues mobiles, grues à tour, ponts roulants. En seulement quelques heures.
Tarif spécial Radio Alpha, 800 euros hors taxe, quel que soit le nombre d'engins.
Pour nous joindre, www.mypce.eu
ou au 01 86 860 860.
60.
Este fim de semana, a Rádio Alfa acompanha as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, organizados pela Câmara de Torigny-sur-Marne, no Centro Cultural Monster. Sábado, a partir das 10 horas, início das comemorações, seguindo-se a projeção de um documentário sobre a Revolução dos Escravos e mesa redonda à volta do tema 25 de Abril. A partir das 20h30, baile com DJ. No domingo, missa às 10 horas na Igreja Saint-Martin de Torigny e festival de folclore a partir das 15 horas. Mercado de produtos portugueses durante os dois dias. Visite, participe e divirta-se. E para a Noite de Fado, com o jantar na sexta-feira, 3 de maio, reserve através do 07-5599-7888. 07-5599-7888.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,69€. Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,69€.
Alors, ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh bah oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit?
Alors toi, tu ramènes ta fraise parce que t'es mal embarqué. Hein.
En barquette, patron, en barquette.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 5,38€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait deux jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Bière Pélican présente. Nous sommes actuellement en présence d'un remarquable spécimen de bière Pélican. Observez sa couleur dorée. Pas de doute, c'est bien une bière blonde Pélican. Pour révéler son goût généreux, la bière Pélican amorce son rituel de service. Un retournement de sa bouteille qui permet de remuer les levures et donner tout son caractère à la bière Pélican non filtrée. Pélican, bière du Nord non filtrée à 7,5 degrés. Pélican, retournez, savourez. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?», répondent « non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « non, pas de fromage non plus, là c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat de deux packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. On continue notre rubrique de santé, la santé d'abord. Voici ma question, comment explique-t-on la baisse du nombre des cancers de la prostate ?
Alors, il y a une explication possible, c'est qu'à un moment, on faisait beaucoup de dépistage, parce que comme on en a discuté, on ne fait pas un dépistage chez tout le monde, mais il y a, au début des années 2000, on dépistait beaucoup de personnes. Et on est revenu un peu sur ça, donc il y a eu un pic après les années 2000, et c'est pour ça que ça rediminue maintenant, parce qu'on fait moins de dépistage.
Et Suzette avait une question sur le dépistage, il me semble.
Oui, en fait, moi j'avais une question sur la PSA. Donc la PSA, c'est plus la PSA est augmentée, plus il y a de probabilité qu'il y ait un cancer de la prostate. Alors, moi j'ai eu des cas où justement la PSA était inférieure à 4, et il y avait quand même un cancer. Donc, de ce fait, le cancer a été pris en charge bien plus tard qu'il n'aurait dû l'être. C'est des pertes de chance, là. Et donc, je reviens en fait au dépistage.
Ouais, du coup, ça existe. Alors, ce n'est pas des situations fréquentes. La situation la plus fréquente, c'est quand le PSA est élevé et qu'on n'a pas de cancer, en fait. Mais parfois, le PSA peut être bas et on a un cancer de la prostate. C'est moins de 10% des cancers de la prostate qui ne sont pas hormonodépendants, ce n'est pas la forme les plus fréquentes de cancer de la prostate. Et en fait, le PSA, il est sécrété par les cellules cancéreuses du cancer de la prostate. Et il y a certains cancers de la prostate qui ne sécrètent pas cette protéine. Et c'est pour ça qu'on ne la détecte pas dans le sang. Et c'est des formes plus rares et qui sont un peu plus agressives parce que c'est pas les mêmes traitements et elles répondent moins bien au traitement. Et chez la personne dont vous parlez, le dépistage n'aurait pas été bon parce que le dépistage, c'est le PSL toucher rectal. On aurait pu peut-être le détecter avec le toucher rectal si c'est un cancer qu'on détecte avec le doigt, mais le PSA aurait été négatif et du coup, on serait passé à côté. C'est comme tout examen, il n'y a pas d'examen fiable à 100%, on n'en a pas en médecine ou très rarement d'examen fiable à 100% qui nous permet de dire c'est un cancer ou c'est pas un cancer. Et c'est pour ça qu'on retrouve encore maintenant des cancers de la prostate avec des métastases au diagnostic. C'est qu'il n'y avait pas de symptômes et on tombe, le patient a mal, on trouve des métastases sur les os qui font qu'il a mal et on trouve le cancer métastatique parce qu'on n'a pas réussi à le détecter plus tôt.
Mais vous parlez de perte de chance, Suzette, mais il faut voir aussi que le dépistage, c'est pas sans risque. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien mettre en balance, donc effectivement, on a parlé là du cas où le PSA est anormalement bas, alors qu'il y a un cancer, et on a beaucoup de situations où le PSA va être élevé et en fait, il n'y a pas de cancer. Mais en fait, ce n'est pas juste une prise de sang. C'est-à-dire que dans ces situations-là, et c'est ce que montrent les études de recherche qui ont comparé faire un PSA systématiquement aux hommes, par exemple à partir de 50 ans, tous les deux ans, versus... Ne pas faire de dépistage et faire soit un dépistage ciblé en fonction du colloque individuel entre le patient et son médecin, soit ne rien faire. Et donc on a des PSA élevés qui ne correspondent pas à des cancers pour lesquels on va proposer donc une imagerie et une biopsie. Et donc il y a de nombreux cas où on va aller proposer des examens et des examens invasifs qui peuvent être suivis de complications alors qu'il n'y a pas de cancer. L'autre chose qu'on sait donc il faut bien peser toujours bénéfice-risque et en effet, il n'y a pas 100% de fiabilité des examens diagnostiques. On tend à ça, évidemment, mais ce n'est pas 100%. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que comme c'est un cancer qui est très lié à l'âge et que certaines formes de cancer de la prostate évoluent très, 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 très lentement, on a un certain nombre de patients à qui on va trouver un cancer de la prostate, mais qui, si on n'avait pas fait de dépistage, comme il évolue très très lentement, on ne l'aurait pas trouvé, et du fait des comorbidités, c'est-à-dire des autres pathologies qu'a le patient, il a une plus grande probabilité de décéder d'une autre pathologie que le cancer de prostate. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment mettre en balance, parce qu'on va proposer des examens, des traitements, la qualité de vie, et le bénéfice potentiel ou la perte de chance du dépistage.
Alors, en parlant de ces moins de 10% donc de cancer, de ces cas, est-ce que dans ce cas-là, le cancer de la prostate ne serait pas apparu suite à un autre cancer existant déjà quelques années auparavant ?
Alors, on n'a pas de données sur ça. C'est toujours plus difficile d'avoir des données sur des cancers rares parce que ces formats de cancer de la prostate sont rares. Les facteurs de risque, ça reste un peu les mêmes, l'âge, si on a des cas dans la famille. Et donc si un patient, par exemple, a déjà eu un autre cancer avant, ou dans sa famille, de la prostate ou du sein, il y a ce qu'on appelle des mutations de BRCA, c'est des gènes qui réparent l'ADN. Et quand on a ces mutations, on est plus à risque de faire des cancers du sein ou de la prostate. Donc par exemple, si la personne dont vous parlez a une sœur qui a un cancer du sein, un oncle qui a un cancer de la prostate... Peut-être que du fait qu'il ait toutes ces personnes qui est dans la famille qui a ces cancers, il est plus à risque lui-même parce qu'il est porteur de cette mutation BRCA. Donc c'est ce qu'on appelle c'est un cancer héréditaire. On transmet la mutation dans la famille.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ces personnes à haut risque de cancer, que ce soit d'antécédents familiaux ou d'autres facteurs de risque, là on sort complètement de la notion de dépistage. Le dépistage, il est organisé pour les personnes à risque moyen, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas un sur-risque de cancer. Quand on rentre dans ces catégories-là de sur-risque de cancer, que ce soit prostate ou sein, on est tout de suite sur des parcours personnalisés qui vont évaluer le risque de cancer, éventuellement surveiller de manière plus approfondie ce patient, mais on sort complètement des programmes organisés de dépistage populationnel qui sont vraiment faits pour les personnes à risque moyen qui n'ont pas un facteur de risque particulier de développer un cancer.
Et dans quel cas peut-on estimer que nous sommes en sur-risque ?
Alors, très bonne question. Donc, il y a des programmes qui sont assez récents et qui sont en train de se monter pour essayer d'évaluer le cancer du risque le risque de cancer individuel, pardon. Le plus simple, c'est vraiment les antécédents familiaux à un degré proche, donc parents, frères, sœurs. Et là, c'est vrai que dans ces cas-là, en général, le médecin ou l'équipe qui prend en charge le patient va conseiller un parcours particulier d'évaluation du risque aux enfants, frères, sœurs, apparentés au premier degré. Mais l'Institut Gustave Roussy, par exemple, va plus loin et monte un programme actuellement qui s'appelle le programme Interception pour évaluer justement, et ça va se développer un peu dans toute la France, pour évaluer, en dehors des antécédents familiaux qui sont déjà pris en charge par des consultations et des parcours personnalisés, faire le point sur les facteurs de risque. Mais pas que familiaux, liés à l'alimentation, liés à l'activité physique, liés au comportement de type tabagisme, consommation d'alcool, et pouvoir évaluer votre risque. Et si vous êtes à un risque supérieur que par rapport à la population générale, vous proposez un parcours personnalisé.
Un parcours personnalisé de dépistage.
Alors, pas seulement, prévention et dépistage, puisque les dépistages n'existent pas dans tous les cancers, il y a des cancers qu'on ne sait pas dépister, mais il y a aussi tout le volet prévention, c'est-à-dire, une fois qu'on a identifié vos facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qu'on appelle en épidémiologie des facteurs de risque modifiables. Évidemment, l'âge, les antécédents familiaux, vous ne pourrez rien y faire. En revanche, on sait aujourd'hui que presque 40% des facteurs de risque de cancer sont modifiables. C'est des facteurs de risque liés à vos comportements de santé, à nos comportements de santé. Mmh. Et c'est là-dessus, on peut faire des choses.
Concernant les facteurs de risque, le traitement hormonal de la ménopause peut-il entraîner le cancer du sein ?
Alors, c'est un facteur de risque du cancer du sein, puisque le cancer du sein, c'est un cancer hormonodépendant. Mmh. Donc, c'est les hormones sexuelles féminines, les œstrogènes et la progestérone. Donc, de prendre un traitement anti-hormonal pendant une longue période entraîne un sur-risque de cancer du sein, mais ça ne suffit pas. Il y a plein de dames qui ont pris un traitement hormonal de la ménopause et qui ne feront pas de cancer du sein. C'est comme tous les facteurs de risque, il y en a qui sont plus ou moins forts. Donc, le tabac pour le cancer du poumon, c'est un facteur de risque très fort. Mmh. Le traitement hormonal de la ménopause, c'est plus faible pour le cancer du sein.
Une question d'une auditrice qui nous arrive grâce à notre WhatsApp, le 06 72 10 98 60. Doit-on obligatoirement m'enlever le sein si j'ai un cancer du sein un jour ?
Alors, pas forcément. Donc, quand on a un cancer du sein, comme tout cancer, le traitement principal, c'est la chirurgie. Donc, on enlève la tumeur, le cancer. Donc, quand on dit tumeur, nous, c'est une tumeur maligne, c'est le cancer. Donc, le but, c'est de l'enlever. Ça s'appelle une tumorectomie. Donc quand la tumeur dans le sein est suffisamment petite, on peut enlever juste la tumeur. Donc on fait une tumorectomie, on garde le sein. Quand la tumeur est trop grosse ou que le sein est trop petit, parce que quand vous avez une tumeur de 3 cm chez une dame qui fait du 85A, on ne pourra pas conserver le sein. Par contre, si vous avez une tumeur de 3 cm dans un bonnet 110, on peut conserver le sein, parce qu'il y a le résultat esthétique qui compte. Mais donc, quand la tumeur est trop grosse, on peut faire une mastectomie. On est obligé de faire une mastectomie si on enlève toute la glande mammaire. Et les autres indications où on enlève toute la glande mammaire, donc une mastectomie, donc on ne conserve pas le sein, c'est quand le cancer du sein est apparu dans un contexte de mutation BRCA. Parce que comme on a cette mutation BRCA, on a risque de faire un autre cancer du sein dans les années qui nous restent à vivre. Donc là, on propose une mastectomie.
Quel cancer du sein est le plus dangereux ?
Alors, il y en a le cancer, des cancers du sein, on va dire, il y a trois catégories. Il y a les cancers hormonodépendants, donc qui dépendent des œstrogènes et de la progestérone, c'est à peu près 80%, donc 8 cancers sur 10. Ce qu'on recherche également, c'est l'expression d'une protéine HER2. C'est une protéine qui peut être exprimée par les cellules cancéreuses du sein. Et donc, on retrouve à peu près pareil dans 15-20% cette expression des protéines. Et donc, avec le statut des hormones, donc c'est les œstrogènes, la progestérone et cette protéine HER2, on définit tous les cancers du sein. Il y a des cancers du sein hormonodépendants HER2-, des cancers du sein hormonodépendants HER2+, donc qui expriment la protéine HER2, et on a les fameux cancers du sein triple négatif, dont on entend beaucoup parler, c'est qu'ils sont négatifs pour les hormones, le récepteur aux œstrogènes, négatif pour le récepteur à la progestérone et négatif pour la protéine HER2. Donc, ils sont trois fois négatifs. Et c'est eux qui sont de moins bons pronostics par rapport aux autres cancers. Ouais.
Alors, les hommes peuvent aussi être assez rarement, mais aussi touchés par le cancer du sein.
Oui, on en a, c'est à peu près 1%. 1% des cancers du sein qui arrivent chez l'homme. Le plus souvent, c'est dans un contexte de mutation BRCA dont on a parlé. Mais parfois, il y a des hommes qui n'ont pas de mutation BRCA et qui font des cancers du sein. Donc, c'est à peu près c'est les mêmes traitements que les femmes. Et c'est souvent des cancers hormonodépendants. Donc, on donne un traitement qui bloque les hormones.
Que faire pour réduire le risque d'apparition de ces cancers ?
Alors, c'est jouer justement sur les mesures de prévention, ce qu'on appelle prévention primaire, c'est-à-dire toutes les mesures qui vont permettre d'éviter l'apparition de la maladie. Et donc, faut bien distinguer prévention et dépistage, puisque au dépistage, la maladie est déjà là. Et donc, on va essayer de la détecter à un stade très précoce. La prévention primaire, c'est essayer de jouer sur tout ce qui peut contribuer à la survenue d'un cancer. Et donc, autant pour le cancer de prostate, finalement, il y a encore aujourd'hui assez peu de facteurs de risque comportementaux liés à l'environnement sur lesquels on peut jouer, puisque c'est essentiellement l'âge, les antécédents familiaux et l'origine. Mais pour le cancer du sein, en revanche, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, il y a beaucoup de choses liées à l'alimentation. L'alimentation, et ça c'est vrai pour beaucoup de cancers, une alimentation trop riche en viande rouge, en charcuterie, une alimentation très peu riche en fibres, ça favorise la survenue de cancers. Ça joue aussi via le surpoids et l'obésité, puisque une alimentation déséquilibrée va conduire également à être plus facilement en surpoids ou obèse. Et on sait que le surpoids et l'obésité, c'est un facteur de risque très fort de survenue de cancer du sein. Les comportements de type consommation de tabac et consommation d'alcool sont aussi des facteurs de risque avérés, vraiment avéré pour le cancer du sein, et on sait qu'il n'y a pas vraiment de seuil. On sait qu'évidemment, plus on consomme de tabac, plus on consomme d'alcool, plus le risque augmente, mais même à des consommations très faibles, le risque dans les grandes études épidémiologiques augmente déjà. Après, c'est des facteurs sur lesquels on peut potentiellement jouer. Je dis potentiellement parce que c'est pas toujours si simple. Ça dépend de son niveau d'éducation, de ses croyances, de dans quel milieu culturel on vit, à quel type d'alimentation on a accès. On sait qu'il y a des très fortes inégalités socio-environnementales qui font que les comportements favorables à la santé sont pas toujours faciles à adopter. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, il suffit pas de dire il y a qu'à faucon. C'est vraiment des interventions de prévention qui vont être, on le sait, bénéfiques, mais pas toujours faciles à adopter. Et il faut qu'il y ait plus d'interventions, je dirais, ciblées pour différents groupes populationnels et pour adapter ces interventions aux inégalités socio-environnementales.
On peut dire que le cancer est une affaire de classe sociale ?
C'est une excellente question. C'est une excellente question, probablement en partie. En partie, mais pas complètement. Sur les facteurs de risque modifiables de type alimentation, consommation de tabac, d'alcool, travail de nuit, probablement et accès au comportement favorable à la santé, vous avez raison. Mais il y a aussi tous les facteurs génétiques et il y a aussi l'effet âge qui sont extrêmement puissant dans la survenue de cancer. Donc je pense que vous avez en partie raison, et donc combler les inégalités sociales, territoriales et environnementales, c'est en partie une affaire de classe sociale en effet, mais c'est plus complexe que cela.
Une question d'un auditeur, une question assez curieuse mais intéressante, la fréquence de la masturbation influence-t-elle l'état de ma prostate ?
Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un facteur protecteur de se masturber souvent pour le cancer de la prostate.
Notre auditeur est donc maintenant au courant. Une auditrice qui nous demande maintenant, peut-on avoir un enfant après un cancer du sein ?
Alors, c'est aussi une question d'actualité, parce que c'est une question qui se pose souvent, parce qu'on a malheureusement de plus en plus de femmes jeunes qui ont des cancers du sein, donc qui ont 30, 35 ans, 40 ans. Et donc le traitement d'un cancer du sein, la plupart du temps, c'est on opère, on fait des rayons, de la radiothérapie, et après, il y a 5 à 7 ans de traitement anti-hormonal, donc qui bloque les hormones. Et tant qu'on prend ce traitement, on ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il y a des risques de malformation si on prend le comprimé en même temps. Et donc avant, on disait, après 2-3 ans de ce traitement par comprimé anti-hormonal, on autorise les patientes à avoir une grossesse, parce qu'on pense que c'est... ce qu'on appelle safe, il n'y a pas de risque et que la patiente n'a pas plus de risque d'avoir une récidive de son cancer du sein.
Mais après l'arrêt, 3 ans après l'arrêt.
Alors, maintenant il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est l'étude POSITIVE, P-O-S-I-T-I-V-E, c'était l'année dernière, qui a regardé cette question. Donc les femmes qui étaient en âge de procréer avaient leur traitement et au bout de 1 an et demi, 2 ans de comprimés, on leur disait, si elles souhaitaient avoir un enfant, vous pouvez arrêter le comprimé et vous faites votre enfant, vous pouvez faire votre enfant. Et elles avaient, entre guillemets, leur laissé 2 ans pour avoir un enfant, que ça soit par voie naturelle ou PMA ou autre. Et une fois qu'elles avaient eu leur enfant et qu'elles avaient accouché, on reprend le traitement qui bloque les hormones. Pour finir les 5 ans ou 7 ans au total. Et cette étude montre qu'il n'y a pas plus de récidive chez ces patientes pour lesquels on a arrêté, on a fait une pause pour leur permettre d'avoir un enfant.
Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est une question qu'on se posait souvent en réunion. Ouais.
Quels sont les effets secondaires des traitements du cancer du sein ? Alors, et d'ailleurs ceux de la prostate aussi.
Alors on peut commencer par les effets secondaires communs, parce que c'est les traitements qui bloquent les hormones, parce que dans les deux cancers, que ce soit la prostate ou le sein, on donne des traitements qui bloquent les hormones. Donc quand on bloque les hormones, donc chez la femme, le cancer du sein, c'est on peut donner soit des piqûres, une fois tous les mois, soit des comprimés. Pour les femmes qui sont pas ménopausées, c'est souvent le tamoxifène, et pour les dames âgées, ce qu'on appelle le létrozole, inhibiteur de l'aromatase. Donc ça peut donner des douleurs, des symptômes de la ménopause, donc des douleurs osteo-articulaires, donc dans les articulations, des bouffées de chaleur, de la fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de la libido, donc une altération de la vie sexuelle. Et c'est un peu pareil chez l'homme avec le cancer de prostate, c'est surtout les troubles de la libido, donc dysfonction érectile et prise de poids pour les deux. Donc les deux, on a ce qu'on appelle le syndrome métabolique qu'on surveille. C'est pour ça qu'on insiste sur l'activité physique en cours de traitement, parce que ça fait prendre du poids, ces traitements. Et après, dans les autres traitements, on a la chimio et d'autres types de traitements, pour revenir plus tard. Il y a plein d'autres nouveaux traitements dans ces deux cancers.
Donc l'activité physique est essentielle dans la guérison d'un cancer du sein ou de la prostate, même dans la prévention de l'apparition de ces cancers. Quel autre type d'activité ou que faire d'autre ?
Alors c'est tout à fait, donc c'est favorable quand on a un cancer de faire l'activité physique, ça aide à mieux supporter les traitements, ça diminue les effets secondaires et ça aide sur plein de choses, sur l'estime de soi, la qualité de vie, même le fait de ne pas faire de récidive.
Diminue l'anxiété.
Ouais. Et alors c'est compliqué parce que dans les recommandations, ce qui est recommandé, c'est de faire 30 minutes à intensité modérée à forte d'activité physique par jour, 5 jours par semaine. Et donc 30 minutes d'activité forte, ça veut dire qu'on transpire, qu'on a du mal à tenir une conversation. Donc même pour nous, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait 30 minutes tous les jours, 5 jours sur 7. Mais dans l'idéal, il faudrait faire ces 30 minutes d'activité physique un peu intense au moins 5 jours par semaine.
Et c'est vrai que ce qui est alors on n'est pas des spécialistes de l'activité physique, mais c'est vrai que l'activité physique, ça marche surtout en termes de santé, c'est-à-dire pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer, pour la santé mentale. Donc c'est vrai que finalement, il y a plein de, enfin, tout est bon pour faire de l'activité physique. Et les spécialistes de l'activité physique disent bien que l'activité physique, c'est pas forcément du sport. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les prétextes pour justement essayer de bouger, surtout avec les modes de vie occidentaux qui sont très sédentaires. Donc voilà, c'est ne pas confondre activité physique et sport pour essayer de bouger le plus possible, qu'on soit en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on ne soit pas malade, ou au contraire qu'on ait eu malheureusement un cancer et qu'on essaye d'utiliser cette activité physique pour mieux supporter les traitements et pour éviter la récidive. Parce que là aussi, en prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été malade pour éviter les complications et la survenue d'un second cancer, le maintien d'un poids normal, l'activité physique, c'est bon.
L'activité physique a couplé évidemment avec l'alimentation et notamment la réduction de l'alcool. J'ai vu que 8100 cancers du sein par an sont imputables à l'alcool.
Oui, alors l'alcool, c'est maintenant un facteur de risque avéré de cancer du sein et de beaucoup d'autres cancers. Hein. Donc c'est vrai que si vous réduisez votre consommation ou si vous arrêtez complètement votre consommation d'alcool pour prévenir un éventuel cancer du sein, vous prévenez en même temps, pareil que pour l'activité physique, beaucoup de maladies, qu'elles soient cancéreuses ou pas. Il est faux de penser que si j'ai une consommation d'alcool faible, voire très faible, un petit verre de temps en temps, il n'y a pas d'effet. Il y a un effet qui est plus faible, évidemment, mais il y a déjà un effet.
Oui, ce qui est recommandé, c'est ne pas dépasser 2 verres par jour d'alcool et avec au moins 2 jours dans la semaine où on ne boit pas. C'est ce que recommande l'Institut National du Cancer.
Y a-t-il un risque quelconque au toucher rectal?
Non. Si la personne n'a pas eu d'opération, je ne sais pas, une chirurgie des hémorroïdes ou autre chose, ou une infection, il n'y a pas de risque. Après, il faut bien le faire dans les bonnes conditions, donc prévenir le patient, l'installer de façon correcte pour pas que ça soit trop désagréable, parce que c'est quand même un examen très désagréable, le toucher rectal. Mais il n'y a pas de risque, contrairement aux biopsies. Hein, les biopsies, quand on fait des biopsies de prostate, donc là, on met une aiguille pour aller prélever un bout de prostate, là, il y a un risque infectieux ou un risque de saignement qui est plus important. Mais le toucher rectal, non, il y a très peu de risques.
Les séances de chimiothérapie sont-elles obligatoires une fois que l'on a su que l'on avait un cancer de la prostate ou un cancer du sein?
Alors non, heureusement, maintenant, de moins en moins. Dans le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est quasiment tout le temps, sauf les cas dont on a parlé, quasiment tout le temps hormonodépendant. Donc, quand on a un cancer de prostate localisé, donc sans métastase, il n'y a pas de chimiothérapie. On fait soit une chirurgie, soit une radiothérapie, il y a un traitement qui bloque les hormones. Pour le sein, c'est un peu différent. Dans la plupart des cas, on arrive à se passer de chimiothérapie. Donc, il y a la chirurgie, la radiothérapie et un traitement qui bloque les hormones s'il y a besoin. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle des facteurs de mauvais pronostic. Donc, si le cancer exprime la protéine HER2, s'il y a des ganglions qui sont atteints, si la taille de la tumeur est grande, si le cancer est agressif, là, il faut faire un peu de chimiothérapie après l'opération. Et en général, on fait 5-6 mois de chimiothérapie et après, on y a une surveillance.
Et ce que vient de dire Marc-Antoine, c'est une très bonne nouvelle, notamment pour la population âgée, puisque plus de 60% de ces cancers surviennent chez des personnes qui sont âgées, voire très âgées. Et donc, en fait, certaines modalités thérapeutiques, et notamment la chimiothérapie que vous venez d'évoquer, sont moins bien tolérées chez ces personnes âgées, parce que il y a des fragilités et des pathologies autres qui viennent se surajouter. Au-delà de 70 ans, il y a une grande majorité des patients qui ont 2 ou 3 maladies en plus du cancer, et donc pour gérer l'ensemble de ces pathologies et pouvoir en plus leur faire une chimiothérapie dans de bonnes conditions, c'est parfois compliqué. Et donc ces stratégies qu'on appelle de désescalade, c'est-à-dire qu'on va essayer de se passer de certains traitements qu'on sait toxiques, efficaces mais toxiques, c'est une bonne nouvelle, en particulier pour les cancers qui touchent les personnes âgées, voire très âgées. Maintenant, on prend en charge des patients de 85-90 ans, et donc la question de la chimiothérapie à ces âges-là, c'est pas toujours simple.
Et nous allons pour le moment marquer une courte pause.
Petite annonce.
Société située en Seine-et-Marne recherche pour le secteur Île-de-France chauffeur aspiratrice, chauffeur poids lourd, super lourd, mécanicien poids lourd et pileur. Possibilité de logement. Contactez Monsieur Leb au 06 77 44 11 41. 06 77 44 11 41.
O Fresso procura emprego, uma casa ou apartamento, em França ou em Portugal? Divulga a sua mensagem nos anúncios da Rádio Alfa. Contacte-nos através do 01 45 10 98 70 ou pelo site radioalfa.net.
Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore, encore mes joies, j'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des tout savoir et voir dans le nord.
Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr. L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprenti, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique.
Os legumes e as frutas frescas são top.
O talho é top.
A charcutaria é top.
O parking é top.
As promoções são top.
Top Fruit em Saint-Brice-sur-Forêt. Todos os produtos portugueses, incluindo uma grande variedade de queijos e charcutaria. Top Fruit, serviço de traiteur e a maior oferta de frutas e legumes frescos da região. Fique atento às nossas promoções.
Top Fruit é top.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
À tous ceux qui appellent un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 5 mai, des 20€ jusqu'à 30€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
Sur tous les chantiers, la gestion des déchets, c'est un sport d'équipe. Car on a tous le même but. Trier nos déchets pour faire gagner la planète. Alors changeons notre tactique et faisons du tri le premier sport sans effort grâce à Valobat. Trier ses déchets, ça fait partie du jeu. Et bonne nouvelle, ils sont repris gratuitement. Téléchargez l'appli Valo Dépôt pour trouver un point de reprise Valobat.
La Poste. Déjà ? Adverbe qui, prononcé de manière surprise, décrit une chose qui arrive bien plus vite que prévu, comme par exemple une indemnisation.
Alors pour être indemnisé sous 48 heures en cas de sinistre couvert, découvrez l'assurance habitation de la Banque Postale. Pendant les bons plans logement de La Poste, pour toute nouvelle souscription jusqu'au 19 mai inclus, les 4 premiers mois sont offerts. Conditions sur labanquepostale.fr. CNP Assurance IARD, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2R, lamondiale.fr. AG2R, La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Et pendant ce temps-là, sur oscaro.com, la livraison est gratuite.
Oui,
gratuite. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Merci beaucoup d'écouter La Santé d'abord dans l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Une question, il me semble qu'on a évoqué sans vraiment y répondre et qui est pourtant une des premières à poser, je m'excuse de ne la poser que maintenant, mais quels sont les symptômes du cancer de la prostate? Je veux dire, les symptômes apparents visibles pour un non-professionnel. Pour le cancer du sein, on pense souvent aux palpations, mais pour le cancer de la prostate?
Donc on différencie cancer de prostate localisé ou métastatique. Donc on a un cancer de prostate qui est localisé à la prostate. Ça peut être le fait d'aller uriner souvent, d'avoir un jet de miction qui est plus faible, d'avoir du sang dans les urines ou des douleurs. Et après, quand le cancer est un peu plus avancé, comme tous les cancers, on peut être fatigué. Donc la fatigue, si vous avez une fatigue depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, il faut penser à aller voir le médecin parce que c'est un signe d'appel de cancer avancé. Il n'y a pas que ça, mais la perte de poids et les douleurs. Parce que le cancer de prostate, quand il est avancé, la première chose dans laquelle il va, c'est les os. Et donc ça donne des douleurs. Donc si on a une métastase sur les côtes, on a mal à la côte. Donc ça, ce sont des signes voilà, de cancer de la prostate. Et parfois, il y a des cancers de prostate où il n'y a aucun signe.
Le professeur Florence Kenoui-Poitrine voulait nous parler de la recherche.
Oui, merci de m'en donner l'occasion. Il faut bien savoir que les progrès médicaux et donc la découverte de nouveaux traitements pour le cancer du sein ou de la prostate qui nous occupe aujourd'hui sont permis grâce à la recherche. Et qui dit recherche dit ce qu'on appelle les essais cliniques. Les essais cliniques, c'est quand tester dans le cadre de la recherche des nouvelles molécules pour lesquelles on a bon espoir que ça va permettre une meilleure efficacité ou une meilleure qualité de vie pour les patients qui sont atteints de soit le cancer du sein en général ou une forme particulière de cancer du sein ou cancer de prostate. Et les essais cliniques, on peut... si vous êtes patient atteint d'un de ces cancers, votre médecin, que ce soit votre oncologue, votre radiothérapeute, votre médecin traitant, peut vous proposer de participer à un essai. Et ce que je voudrais dire, c'est que la recherche médicale sans les patients, c'est impossible, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, alors bien sûr, on va demander le consentement, expliquer la recherche, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que participer à une recherche médicale quand on est patient, c'est pouvoir bénéficier soi-même de l'accès à un nouveau traitement, mais c'est aussi pouvoir permettre l'avancée des progrès dans les meilleures conditions et avec le meilleur niveau de preuve et sans les patients. On ne peut pas faire avancer la recherche médicale et la recherche en cancérologie.
Et nous terminerons cette rubrique aujourd'hui en abordant les nouveaux traitements en cancérologie.
Oui, merci. On va notamment dans le cancer du sein. Je peux vous parler de quelques traitements qui sont arrivés il y a pas longtemps, quelques années. Alors, ce dont vous avez sûrement dû entendre parler, c'est l'immunothérapie, donc qui est arrivée dans beaucoup de cancers. Pas encore dans le cancer de la prostate, mais dans le cancer du sein, on l'a. Donc l'immunothérapie, c'est des injections, et le but, c'est de réveiller le système immunitaire du patient pour qu'il aille lutter contre les cellules cancéreuses. Donc c'est son propre système immunitaire qui va détruire les cellules cancéreuses. Et donc l'immunothérapie, ça marche très très bien dans le mélanome, le cancer du poumon. Il y a des mélanomes qui sont métastatiques, qui sont guéris avec l'immunothérapie, alors qu'il y a 10 ans, c'était des gens malheureusement qui mouraient très vite. Donc il y a l'immunothérapie qui est arrivée dans le cancer du sein, notamment dans le cancer du sein triple négatif, qui n'est pas hormonodépendant et qui n'a pas la protéine HER2. Et il y a d'autres traitements qui sont arrivés, ce qu'on appelle les anticorps conjugués. Donc en anglais, c'est ADC, c'est Antibody Drug Conjugate. Donc c'est un peu comme un cheval de Troie. Donc c'est arrivé par exemple dans le cancer du sein qui exprime la protéine HER2. On a un anticorps, quelque chose qui va fixer la protéine HER2, donc ça cible les cellules cancéreuses qui expriment HER2. Et une fois que ça a ciblé la cellule, ça va rentrer dans la cellule cancéreuse et libérer de la chimio dans la cellule cancéreuse pour la faire mourir. Et donc ça, on a beaucoup d'ADC qui arrivent en ce moment et c'est ce qui est un peu le futur. Enfin, il y en a beaucoup et dans plusieurs types de cancers, pas que le cancer du sein. On en a dans le cancer du poumon et d'autres cancers. Et donc ça, c'est vraiment le traitement d'actualité dont on va reparler à notre prochain congrès là, en juin, le congrès américain international sur le cancer.
Merci beaucoup Marc-Antoine Bendera, Florence Canouy, Poitrine et Suzette Fernandez pour cette rubrique La Santé d'abord. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ici sur Radio Alpha.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Hoje em dia não é fácil encontrar grande amor, mas eu descobri assim que ela olhou para mim. Jeito tão delicado e cheiro tipo flor. Como é possível? Como é possível? De uma semente sem água nascer uma flor na mão. Rosa, deixa-me dar-te uma rosa. Rosa, olha como a pétala pousa. Rosa, deixa-me dar-te uma rosa. Rosa, olha como a pétala pousa.
És uma rosa e eu sei que não cheira a nada. No meu jardim tudo que nasce é saudade. Uma foice com uma enxada, eu arranquei todas as flores que me lembram de ti. É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu. Desculpa se eu sou insensível, eu só não sei como é possível.
Entra sem água, nascer uma flor na mão
e um espinho no meu coração. Oh, yeah.
Rosa, deixa-me dar-te uma rosa. Como a pétala, olha como ela, olha como ela dança. Deixa-me dar-te uma rosa. Olha como ela, olha como ela dança. Olha como a pétala pousa.
Rádio Alfa, estamos ligados pela alegria.
Vem a noite, cai seu manto escuro devagar. E eu ainda
ainda te espero chegar.
Gravidade.